Oui.
Ben, ça passe.
Et ben voilà. Et, ben, et alors on est sur la ligne.
Voilà, très bien, ben voilà.
Voilà, ouais. Du fin fond du Vaucluse.
Oui.
Par un superbe soleil.
Ah oui, d'accord.
Mais alors ce qui est amusant, c'est que moi je m'entends, mais je ne t'entends pas très,
là,
très bien.
Là, quoi. Ça y est, je crois.
Ah, ça y est, ouais, oui, voilà. Ça y est, je t'entends mieux.
Ouais.
Alors, bah, j'ai vu que tu avais évoqué des sujets aussi qui nous ont passionnés, à savoir ouais. Ce spectacle, enfin, spectacle, c'est un bien grand mot, mais ce film sur le fait que le nucléaire est un outil qui non seulement est dangereux, radioactif, mais il se trouve qu'on ne peut même plus arrêter la machine.
Ah ouais.
C'est une machine infernale, on ne peut plus du tout espérer pouvoir s'en débarrasser, hein, puisqu'au fond, c'est vrai que ce texte, enfin ce film,
ce documentaire,
était vachement intéressant, et je crois que tu l'as dit, il faudrait que tous nos auditeurs le revoient. Bon, alors du Vaucluse, Josy et Jacques, on vous dit bonjour à tous, on vous embrasse tous, nos auditeurs, enfin nos chers et fidèles écouteurs, comme dirait Monsieur Lebrun. C'est pas Albert, c'est pas le président. De la même façon, ce drame que constitue le fait de s'être lancé dans une telle opération, c'est-à-dire le nucléaire, sans savoir du tout ce qui allait se passer une fois que un réacteur serait usé, ne pourrait plus fonctionner correctement. Eh bien, effectivement, c'est bien le témoignage de cette société capitaliste qui, du moment qu'elle fait du fric, du moment qu'elle joue les grands chefs, les grands maîtres, les chefs de guerre, je sais pas si tu te rappelles, mais on avait dit le nucléaire, eh bien, c'est l'indépendance. Hein,
oui.
C'est-à-dire, on ne sera plus embêté par nos ennemis parce qu'on pourra leur faire peur. Et bien, finalement, cette affirmation s'est retournée tristement contre nous, puisque finalement, ce n'est même plus nos ennemis qui nous font peur, c'est nous-mêmes.
Oui, juste Jacques, dire, rappeler, puisque j'ai parlé de la cohorte des prétendants de dits monarques républicains, enfin de cette bande de dictateurs de la Ve République qui avait confisqué le pouvoir. Rappelons quand même que Giscard d'Estaing, quand même, nous, quand on a été un peu se frotter, enfin ça s'est mal passé, souviens-toi à Malville, Super Phoenix, à l'époque on le disait que plus les centrales auraient de déchets nucléaires, mieux ce serait, puisqu'on pourrait transformer ça en plutonium.
Le Super Phoenix, c'était ça l'objectif.
C'est ça, hein. Alors donc, l'escroquerie à l'époque, le Giscardouille, il est toujours là, malfaisant, nuire, en continu, on ne lui demande pas des comptes, évidemment, hein, pour ça.
Oui, tous les moyens sont bons pour justifier des activités de type criminel. Hein. Il est certain que le nucléaire a toujours été, même depuis Hiroshima et Nagasaki, a toujours été une activité criminelle, puisqu'il y a quand même eu un certain nombre de gens, je pense à Albert Camus à l'époque, alors qu'effectivement, malheureusement, l'opinion publique se disait que c'était la seule façon d'arrêter la guerre contre le Japon. Eh bien, Albert Camus disait c'est vraiment un crime contre l'humanité. Il n'utilisait pas exactement ce mot-là, mais il était très... très critique à l'égard de cette initiative qui a consisté à détruire des centaines de milliers de gens pour sous prétexte qu'on voulait à tout prix gagner la guerre. Et le fait que aujourd'hui encore on se demande ce que va devenir Fessenheim.
Oui, bien sûr.
Fessenheim, ce qui est tragique finalement, et c'est pas seulement dans le nucléaire, c'est que le capitalisme a réussi progressivement à force de comme tu le disais tout à l'heure, formater les esprits, à faire en sorte que les travailleurs, les gens qui bossent sont prêts à se suicider pour continuer à faire fonctionner Fessenheim.
C'est le cas là-bas, exactement.
Et c'est pas seulement dans le nucléaire, cette espèce de décervelage qui consiste à pour les gens qui ne sont plus capables de réfléchir. Ils se disent, ben moi, tout ce que je veux, c'est, même si je dois faire crever mes enfants, tout ce que je veux, c'est avoir un boulot et pouvoir payer mes fins de mois.
Alors, on l'a vu, Jacques, puisque on a souvent abordé ce sujet, puisque le société nucléaire, on l'a dit aussi, c'est l'organisation d'une société, autoritaire dans laquelle française, c'est significatif aussi, c'est révélateur. Mais là, à Fessenheim, on a vu la population défiler avec des enfants, les enfants de Fessenheim, les élus de Fessenheim, avec la CGT de Fessenheim et avec la direction de Fessenheim. Donc on avait l'unité totale. Donc là, on est dans un système totalitaire.
C'est incroyable. Parce que les gens pourraient dire rester chez eux en disant nous on ne sait pas ce qu'il faut faire, il faut que le mari ou le père puisse apporter des sous à la fin du mois. Mais alors aller avec la direction, aller avec les élus pour dire nous sommes prêts à mourir pour le nucléaire et pour simplement garder un boulot, c'est effarant. D'autant plus que même le démontage et le fait d'essayer de démonter la centrale, ça prend des dizaines d'années. Et que d'ailleurs, dans le film, on le voit.
C'est drôle dans le film.
On le voit ça dans le film. On dit, mais les gens qui connaissent très bien, puisqu'ils l'ont montée, cette centrale, bien, ils sont capables aussi de continuer à la démonter.
Il y a un mec dedans, alors c'est très drôle, je la recommande aux auditeurs d'aller revoir ça, ce film, je l'ai dit, il reste une semaine en tout cas sur le site de Arte. Il y a un mec qui dit, combien de temps pour démanteler? Alors il fait 10, 20, 30, 50, 100 ans.
Finalement.
C'est le fût du canon de Fernand Reynaud. Combien de temps pour refroidir le fût du canon? Un certain temps.
Oui. Alors, ça, c'est effectivement un sujet qui est, j'allais dire, malheureusement, dans l'actualité pratiquement éternelle et qui a toute une histoire tragique. Et il y a un autre sujet que je voulais aborder qui est aussi d'actualité, c'est l'Europe, parce que lui aussi, il a une histoire tragique, et il se trouve que le monde diplomatique a fait un supplément, comme il le fait d'ailleurs de temps en temps, qui s'appelle Manière de voir, et dans lequel il traite de l'Europe en disant quel inventaire peut-on faire de l'Europe, le droit d'inventaire. Voilà, Europe. Et dans cet ouvrage, cette brochure assez importante, il y a une centaine de pages, le monde diplomatique reprend des articles qui ont été faits tout au long, au fond, de l'évolution depuis 1950 de l'Europe. Et ce qui m'a frappé, j'ai pas évidemment lu les dizaines d'articles qui ont été faits, il y en a un certain nombre qui sont bien sûr intéressants, mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est de me dire, mais est-ce que le monde diplomatique a vraiment eu des positions très claires en ce qui concerne la construction européenne? Et je crois que non, on pourrait dire qu'il a jamais été, sauf à critiquer les conséquences de telle ou telle initiative européenne, il a jamais été un farouche opposant. Et donc, en lisant les différents titres de ces articles qui se sont écoulés entre 1950 et 2013, eh bien, je, je me suis aperçu que le monde diplôme essayait un peu de dissimuler cette faiblesse, cette incapacité à dire l'Europe c'est un crime, de même que le nucléaire, et notamment deux articles, puisqu'il y a non seulement le titre du sommaire au début de la revue, mais il y a ensuite la référence au titre de ce même texte qui avait été fait il y a donc 10, 15 ou 20 ans. Et ce qui m'a frappé dans deux articles, l'un de Serge Halimi, pour la gauche, une utopie de rechange, c'est-à-dire une certaine façon de se dédouaner en disant c'est la gauche et en plus elle a des idées, des illusions sur ce que pourrait être une autre société. Alors qu'il avait écrit, quand la gauche renonce au nom de l'Europe. Et donc, renonce à un certain nombre de ses idées au nom de l'Europe. Et donc, tu vois, il insiste maintenant sur le fait que véritablement l'Europe pour la gauche est une utopie, mais il dit pas aussi pour le monde diplomatique si c'est une utopie. En tout cas, c'est une utopie particulièrement dangereuse. Et de la même façon, la fille qui a préparé cette revue, Manière de voir sur le droit d'inventaire Europe, elle présente l'article qu'elle avait fait il y a 10 ans sous le titre « Et les Français dire non ». Or, il y a 10 ans, elle n'avait pas du tout dit ça. C'est vrai qu'il y a eu en effet un rejet d'un référendum sur l'Europe par la France. Non pas par la France, mais par les Français. Et alors qu'à l'époque, elle avait écrit « De la rébellion à la reconstruction ». C'est-à-dire donc qu'elle avait imaginé qu'on pourrait peut-être reconstruire une Europe correcte. Alors il s'est trouvé que moi, j'ai essayé de revenir sur les deux pères de l'Europe et qui sont le symbole même de ce qu'est devenu cette organisation qui avait évidemment tenté, là encore on a endormi le populo, comme dirait l'autre, hein. Cette organisation de l'Europe a été un moyen de séduire les peuples d'Europe en disant eh bien maintenant ça va être formidable, vous allez pouvoir circuler, vous allez pouvoir vous entendre, il n'y aura plus la guerre franco-allemande. Donc cette espèce de générosité qui en effet peut inspirer les gens, en tout cas c'est une partie de leur façon de se comporter, eh bien elle a été complètement un faux-semblant, un faire-valoir, puisque l'Europe, et j'ai retrouvé sur Internet par une organisation qui s'appelle l'Union républicaine sur l'Europe, enfin apparemment c'est des historiens qui se sont penchés notamment sur la déclaration Schuman de 1950 qui détaille le parcours de ces deux personnages qui sont à l'origine de la criminelle Europe d'aujourd'hui, c'est-à-dire le fasciste Robert Schuman, puisqu'il a été ministre pendant un mois du maréchal Pétain. Mmh. Il a pris les pleins pouvoirs à Pétain. Il était un passionné de Salazar, de Franco et de Dollfuss. C'était véritablement... Il a même été condamné à la libération pour indignité nationale et pour incapacité de se représenter. Et c'est De Gaulle qui a évidemment voulu dire moi je suis le grand chef qui arrive et donc je vais être généreux, et c'est De Gaulle qui a fait annuler cette condamnation de Robert Schuman. Et donc on voit le personnage, et ce personnage ensuite a régné sous la 4e République dans différents ministères et notamment aux affaires étrangères pendant 21 ans. Mmh. Donc c'est ça l'Europe fasciste, l'Europe de
Monet. et Monet. Dans,
et alors le deuxième personnage, évidemment, c'est un banquier entièrement entre les mains des Américains, entièrement à la botte des États-Unis. Et la conclusion des historiens de cette revue, là j'ai oublié le détail de ce nom, mais on trouve ça sur Internet, quand on fait Schumann ou quand on fait Jean Monnet, c'est que c'est finalement, l'Europe n'a pas été une initiative française ou franco-allemande, ou etc. Cette déclaration Schumann de 1950 a été rédigée absolument point par point par le ministre des Affaires étrangères américain de l'époque, qui s'appelait Dean Acheson, et qui effectivement avait comme simple objectif de contrôler l'économie européenne, de la faire complètement dépendante des États-Unis, et avec évidemment là encore, indépendamment du discours généreux sur l'entente entre les peuples, c'était, il fallait reconstruire, et donc il y avait le plan Marshall, il fallait en effet que les, et donc ce que on constate aussi en lisant ces papiers sur Jean Monnet, c'est que les États-Unis avaient bien conscience que il fallait domestiquer l'Europe et la mettre aux ordres et faire en sorte que elle soit l'adepte du libre-échange, hein, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, aujourd'hui depuis 50 ans. Et ce libre-échange, c'est un point d'actualité que je voulais évoquer pour finir ce tableau sur un banquier et un fasciste à l'origine de l'Europe. Donc on pouvait, malheureusement, l'inventaire, il est vite fait. On sait très bien ce qui se passe. C'est que, en plus, même la théorie du libre-échange à l'américaine, qui a été imposée, évidemment, qui aujourd'hui fait que la Commission européenne dit à la France, vous n'allez pas sauver les centaines d'emplois de la société qui fait le transport en bateau de Marseille à Ajaccio, hein, là, je ne sais plus son nom, SNCM ou un truc comme ça.
Oui, c'est ça.
Vous n'avez pas le droit de les aider. Vous n'avez absolument pas le droit de les aider à se sortir de leurs problèmes financiers. Et de la même façon, c'est la même Commission européenne qui organise en quelque sorte au profit des multinationales, pas seulement françaises, mais européennes et éventuellement, pourquoi pas, états-uniennes, qui fait que le fameux sinistre où il y a eu 1000 ouvrières du textile au Bangladesh qui ont été tuées par le fait que le bâtiment mal construit où elles étaient s'est effondré, eh bien, l'Europe, tiens-toi bien, elle a maintenu des avantages qui sont pas du tout du type du libre-échange, puisque le Bangladesh a le droit, sans droit de douane, et en plus avec des quotas, et sans même des quotas, c'est-à-dire sans même limite, de continuer à faire des exportations de tissus venant de ces usines, puisque malheureusement, il n'y a pas que cette usine-là où il y a 1000 morts, mais il y en a une, d'après la presse, il y en a 450, t'entends bien, 450 usines de ce type au Bangladesh. Quand on dit, ce sont des criminels qui ont organisé l'Europe en 1950, eh bien, on voit ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, là, on le rappelait aussi, tu sais, quand on parle, il y a ici, quand même, je l'ai déjà rappelé, une école de guerre économique. Hein. Alors, si on est, évidemment, en guerre économique, on l'a déjà dit, hein, souvent, c'est pas une nouveauté.
C'est pas une nouveauté.
Et donc, il y a des morts, forcément, qu'il y a des victimes. Et donc, à chaque fois, c'est la logique, même du système, du fonctionnement de ce système, hein, comme on parlait tout à l'heure, des victimes, évidemment, potentielles ou avérées pour le nucléaire, hein, puisque c'est par centaines de milliers, puisqu'on revient, on l'a déjà dit, Tchernobyl, et puis après Fukushima, les conséquences épouvantables par rapport à ce qu'il y a eu au Japon. Donc on le voit aussi de la même manière, la chair à patron.
C'est la variable d'ajustement.
Oui.
Hein, le salarié n'est plus un homme, n'est plus un individu. D'ailleurs, tu as fait remarquer que le monde s'est transformé en espèce d'apologiste de l'éco-entreprise.
Tous les jours.
Je regardais l'autre jour Le Monde avait 10 pages et son supplément économique en avait 16. Alors c'est le signe. Et dans ce supplément économique, eh bien, on fait l'apologie des grands patrons comme Steve Jobs à Apple Branson qui a Virgin. Et on, par exemple, à propos de Virgin, on voit l'empire gigantesque de ce milliardaire américain Branson qu'on prétend être un espèce d'individu un peu comme le banquier anarchiste de Pessoa qui a réussi à utiliser toutes les astuces du capitalisme pour faire fortune. Et on parle pas du tout cette constellation, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines d'organisations Virgin dans le monde. Eh bien, il y en a une qui nous intéresse, c'est celle qui est aux Champs-Élysées et qui s'occupe de distribuer de la musique. Eh bien, avec les conséquences que ça a, puisque on met simplement est en liquidation, est en faillite, mais on parle pas du tout des centaines d'ouvriers, les centaines d'employés qui vont se retrouver ou qui sont déjà sur le pavé. Donc on peut dire que ce supplément du Monde qui au fond considère les salariés comme des simples variables d'ajustement pour les profits capitalistes, eh bien il est à l'unisson de ce que a été la construction européenne et mondiale et américaine depuis plus de 50 ans, malheureusement. Et je crois que nous ne sommes pas prêts sauf à une véritable soulèvement, une véritable résistance. Tout à l'heure, tu parlais de Jean Moulin. Ben, il faudrait vraiment une résistance comme celle contre les nazis. Résistance contre les banquiers, la résistance contre les fascistes, parce que dans l'article, il y a un article de Robert Schuman, justement, dans ce manière de voir du monde diplomatique. Et ils disent ce qu'il faut, c'est que finalement, on construira une belle Europe que si tout le monde est bien discipliné, obéissant aux ordres. Et donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Et alors, oui, on peut dire aussi, alors ça, je ne le savais pas, mais tu sais que il y a une fondation Robert Schuman, et qu'en 1990, ils ont convoqué le pape, alors, je ne sais plus qui c'était, Pie XII ou un autre, et qu'ils ont sanctifié Robert Schuman. C'est devenu un saint. Et alors, dans la présentation...
Plus c'est pourri, plus c'est saint.
Tu te rends compte, alors on peut dire qu'on a tous les ingrédients de ce qui, effectivement, détruit la nature même de la société et la nature même de l'individu, quoi. C'est véritablement quelque chose d'incroyable. Et quand je dis il faut une résistance, c'est pas avec une sixième république, comme tu le disais tout à l'heure, parce que l'Europe s'arrange bien les politiciens. D'une part, ça leur fait 750 postes de députés européens à pouvoir prendre, puisqu'ils sont élus directement au suffrage universel. Et puis, ça les dégage de toute responsabilité. Ils avaient déjà un mandat représentatif qui leur permettait de faire ce qu'ils voulaient, mais alors là ils peuvent dire mais finalement c'est pas nous qui décidons, c'est l'Europe. Donc l'Europe est la machine européenne avec ses dizaines de milliers de fonctionnaires et ses députés, c'est quelque chose qui effectivement est un avantage considérable, parce qu'au fond le député ou même le simple élu local ou régional, il peut dire mais au fond, vous savez, mon brave électeur, moi j'y peux pas grand chose parce que c'est l'Europe, c'est les députés européens. Donc c'est vrai que on peut pas compter en quelque sorte sur des élus du peuple entre guillemets, des gens pour changer quoi que ce soit.
Ben non, évidemment, puisque là encore, on le dit à chaque fois, Ils sont là simplement pour la place, à la bonne place, et c'est tout, hein, voilà, pour, ah oui. Pour la, c'est tout ce que l'on peut faire, et alors?
Oui, oui. Et t'as vu, à propos de la place, là, comme tu dis, il y a une chose qui m'a un peu amusé, c'est qu'il y a même 10 députés socialistes qui veulent aller bricoler le dimanche.
Ah oui, 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 c'est ça. Ah bon?
Donc ils sont,
avec
ils
le
sont
soutien.
Pas, ils sont pas d'accord avec Hollande,
oui.
qui veut pas revenir sur l'interdiction du travail du dimanche.
Ah oui, avec, là aussi, on parlait tout à l'heure de manifestations qui avaient eu à Fessenheim, mais on a vu aussi pour les magasins bricolage, hein, donc monsieur ou madame Bricot, eh bien de dire des gens qui bossaient, hein, là-bas, il n'y a pas de raison, on l'a déjà dit, d'être ouvert le dimanche, le samedi et la nuit, hein, c'est-à-dire en permanence, hein, pour la même chose, enfin que les gens sont dans une telle situation d'aliénation par le système capitaliste, qu'ils sont prêts à accepter ou à faire n'importe quoi pour justement dire c'est comme ça, il n'y a pas d'autre choix, voilà dans quoi on peut être placé, hein, puisque la situation quand même est tragique, le rappeler, pour des, si on s'en tient à l'Hexagone, de millions de gens dans ce pays qui vivent sous les seuils, hein, fameux seuil, tu sais, de pauvreté, je dirais plutôt le seuil de misère. Donc on est dans cette situation-là et le système a retourné un peu par rapport, on parlait d'ouvrages qui n'ont pas été traduits, c'est-à-dire oser, comme cette chanson tout à l'heure qui est passée sur Radio Libertaire, de dire je ne veux pas travailler, mais je ne veux pas travailler pour le capital, je ne veux pas travailler pour le patron. Hein, c'est ça la donne, et de dire simplement, ben, vous n'avez que ça, c'est ce que les pôles emploi peuvent proposer justement aux plus jeunes ou à l'ensemble de la population qui vient malheureusement, hein, dans ce nouveau, cette nouvelle escroquerie, cette nouvelle arnaque capitaliste.
Bien sûr, et c'est ça qui est absolument criminel, même de la part de ceux qui sont pas ceux qui brandissent le couteau assassin, comme les gens de la communauté européenne à propos de ces malheureuses 1000 ouvrières du textile au Bangladesh qui ont été massacrées, parce que finalement l'Europe ne contribue pas non seulement à détruire les populations d'Europe, hein, à faire en sorte que, sous prétexte qu'il faut renflouer les banques, eh bien la Grèce, Chypre, le Portugal, l'Espagne, tout ça souffre d'une façon extraordinaire, les peuples en tout cas souffrent d'une façon fantastique, avec des taux de chômage, avec des impossibilités de vivre, avec la suppression ou la réduction des retraites, hein, comme monsieur Hollande veut le faire là en ce moment. Je sais pas où en est la discussion au Parlement sur la réduction des retraites ou la prolongation de la durée du travail pour toucher une misérable retraite. Mmh. Eh bien, c'est le monde entier qui est visé par, enfin qui a comme conséquence, qui a conséquence dramatique. C'est donc l'attitude européenne, l'attitude de l'Europe, l'attitude des gens qui la France a dit non, disait l'autre, les Français ont dit non à l'Europe, mais malheureusement ils ont même pas compris que voter sert à rien, puisqu'on a tout de suite dit, ils ont dit non, mais ça compte pour du beurre, hein, donc nous on reste dans l'Europe, hein, y a pas de problème. Eh bien, effectivement, les conséquences sont de type mondial, quoi. C'est ça qui est incroyable.
Par rapport à ça, Jacques, il y a une information, enfin, on l'a déjà cité, Yulantas ou Yanis, je pense, son prénom, par rapport à un film, hein, là aussi on peut le trouver sur Internet, en tout cas pour la présentation, comme on dit, ou pour la bande-annonce de ce film, qui a été réalisé en Grèce, hein, qui fait un peu le point des images, des propositions, après on peut être critique, et tout du moins, l'appellation de ce film, et le titre est justement très intéressant et très important, c'est « Ne vivons plus comme des esclaves ». Et je pense que c'est pas simplement la Grèce qui est concernée, c'est l'ensemble, comme tu viens de dire, des Européens, vivons plus. Alors évidemment, des esclaves aussi qui ont des cages dorées, hein, ça aussi, des esclaves qui sont mieux alimentés, dont la chaîne est un petit peu plus longue, hein, c'est ça. Mais finalement, c'est quand même les peuples, pour le moment, sous le joug du capitalisme, se comportent, ou vivent, ou subissent. Alors plus ou moins d'acceptation, et quand ils acceptent pas, évidemment, la milice, la police, l'armée est là pour leur foutre sur la gueule. Mais le projet de prendre déjà conscience que ça, comme on parle de nouvel esclavage, qu'on vit véritablement dans une forme d'asservissement, et que tous ceux qui font des pas de côté, eh bien, on est prêt à les réprimer. Et pour les autres, bah, c'est de pouvoir survivre. Là, c'est le cas pour la Grèce, c'est le cas pour l'Espagne, c'est le cas pour Portugal, une partie de l'Italie. Là aussi, évidemment, faut aller chercher ces informations, comme on dit, sur Internet, hein, les nouveaux, puisque la propagande laisse passer de temps en temps des documents en terre, comme on vient de le dire sur Arte. Mais on peut dire, évidemment, comme c'est un bourrage de crâne, un formatage permanent qui est à la télévision et dans les médias et dans les radios et dans les journaux, eh bien, évidemment, faut résister.
Ça passe simplement comme une façon de ne pas être comme tout le monde et de justifier la liberté de la presse, hein, c'est-à-dire au nom de la liberté de la presse, on passe un documentaire sur 500 ou sur 1000 qui a une vision différente des réalités. C'est sûr que la façon dont les médias fonctionnent, on se demande même comment des journalistes, parce qu'on peut penser qu'il y en a quand même encore qui ont un peu de conscience, on peut se demander, mais comment ils peuvent accepter ainsi de répéter, de glorifier en plus des activités qui sont des activités criminelles.
Tout à l'heure, tu
parlais de la guerre qui n'est pas seulement économique, mais de la guerre tout court. Mais regarde ce qui se passe en Syrie. Le journal Le Monde a fait au moins 2 ou 3 éditoriaux. Il en avait déjà fait un à propos de la guerre du Mali pour glorifier les braves soldats français qui vont extirper les djihadistes au Mali, alors qu'on sait très bien que c'est uniquement les intérêts stratégiques et économiques et financiers des multinationales qui sont en cause, hein, que ce soit le pétrole, que ce soit l'or, que ce soit toutes les matières premières. Et donc j'ai été absolument scandalisé. Tu me diras que c'est peut-être pour son intronisation que la nouvelle directrice
émancipée, émancipée,
oui, c'est ça qui avait non seulement pour le Mali, elle avait fait cette double page à la gloire de l'armée française, se comportant d'ailleurs avec le concours des Tchadiens, des soldats tchadiens, d'une façon scandaleuse, mais enfin bon, on sait très bien que par définition, le soldat est un criminel en puissance, mais ça continue avec la Syrie. Hein, là encore, je crois que c'est hier ou avant-hier, il y avait à nouveau un éditorial dans lequel on disait, mais c'est quand même une honte de ne pas balancer des armes aux rebelles syriens, alors que Bachar el-Assad, le dictateur, continue à massacrer sa population. C'est ça qui est scandaleux, alors que les massacres, ils sont tout autant du côté des islamistes djihadistes que du côté du pouvoir, et que par conséquent, quelles que soient les responsabilités dans les crimes qui sont commis, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ça n'est pas en soufflant sur les braises, ça n'est pas en envoyant des drones qui nous retomberont sur la tête, hein, comme tu as dit tout à l'heure, ça n'est pas du tout en envoyant des armes qu'on va régler le problème. Eh bien, le journal Le Monde se caractérise par cette volonté de glorifier la guerre, de glorifier l'assassinat, de glorifier la tuerie. Et ça, je suis absolument sidéré, parce qu'il n'y a pas seulement la directrice qui fait des éditoriaux de ce type, mais il y a aussi des journalistes qui, au nom de l'obéissance au chef, continuent dans la même voie. Alors qu'on sait très bien qu'on ne résoudra absolument pas ni le problème syrien, ni tous les problèmes qui se posent aujourd'hui dans les soi-disant pays d'Afrique, Libye, Tunisie, Égypte, qui ont réussi, entre guillemets, à se débarrasser d'un dictateur, on ne résoudra pas les problèmes d'opposition, les problèmes d'affrontement, et surtout avec la religion comme... comme porte-drapeau, hein, quand on et le vote. Alors, en plus, oui. On savait très bien que si on fait voter les Tunisiens, les Égyptiens ou les Libyens, eh bien, comme ils sont infectés d'islam, infectés de religion, eh bien, ils diront, bah oui, nous résignons.
Oui,
hein,
oui,
islam,
oui.
Résignez-vous, oui, disait Proudhon.
Oui, Jacques, et puis aussi, on l'a déjà dit plusieurs fois sur cette antenne, le système capitaliste a intérêt à y avoir des foyers importants de guerre, de conflits sur l'ensemble de la planète.
Ben oui.
Être en état de guerre, comme pour la France, eh bien, c'est dire à la population française, fermez votre gueule.
Ouais,
on
est
en tant que vigilance au maximum, hein, donc vous acceptez de voir des militaires dans la rue, vous acceptez de voir des flics, des milices, des militaires dans les gares, dans les aéroports, et donc, si vous avez envie de discuter, hein, de dire quoi que ce soit, on vous dit, ben non, mais, monsieur, c'est pas le moment, puisque nous sommes en guerre, donc vous devez obéir, vous devez fermer votre gueule.
Et
fermer votre gueule, et donc ça aussi, c'est entretenu par les marchands de canons, hein, volontairement.
Et encore plus dangereusement par les Hollandais et compagnie, qui sont les voyageurs de commerce pour aller vendre des drones ou des armes terrifiantes à droite et à gauche.
Avec le masque qui veulent se mettre, je parlais de Moulin tout à l'heure, Jean Moulin ou de Jaurès, hein, de dire, oser encore une fois, masque, mascara de tous ces gens, évidemment, qui ne sont que de la droite, de la pure droite, formés dans les mêmes écoles du crime, on a dit l'ENA partout, justice nulle part, hein, c'est exactement ce que l'on a, et on a ça devant les yeux. C'est pour ça que tout à l'heure, on le disait aussi, c'est comment la population qui est imprégnée à son tour partout et donc subit sans peut-être réagir, sans réaction, un peu de la même manière, comme on le dit, de bouffer du McDo, des produits toxiques, de la bouffe toxique, et bien mentalement, les gens sont imprégnés par rapport aux produits toxiques du capitalisme, c'est-à-dire l'idéologie véhiculée, alors le fric, le pouvoir, les paillettes, enfin les milliardaires, hein, qui fascinent les populations, la presse qui est complètement...
Oui, c'est ça, la glorification des milliardaires, la glorification des élites qui sont uniquement des criminels qui ont fait fortune sur le dos des populations.
C'est ça.
Et on les monte au pinacle, on dit, regardez comme ce Steve Jobs, que ce Branson, c'est fantastique, vous vous rendez compte, il a réussi à faire une fortune de plusieurs centaines de milliards.
Ou Jacques, plus modestement, Thomas Fabius, qui je dis, grâce au casino...
Le fils à papa,
on est des petits bras, comme on dit, par rapport aux États-Unis, c'est plus modeste.
Et c'est vrai que je lisais des articles aussi sur l'université et le CNRS, c'est quelque chose aussi d'incroyable de vouloir à tout prix orienter toute la recherche et toute la formation des individus sur l'économie. Pas seulement les patrons d'université qui sont devenus des managers qui doivent aller faire la pêche au fric auprès des manias de l'industrie et de la banque. Mais en fait, on veut que tous les jeunes qui vont suivre des cours dans les écoles d'économie ou même d'ingénieurs, c'est ça qui est pire, c'est même dans le domaine technique et scientifique, soient infectés par les problèmes économiques et par le souci unique de développer le capitalisme, c'est-à-dire produire pour produire n'importe quoi pour que un petit groupe d'investisseurs s'enrichisse, et on rejoint un petit peu ce que disait le fondateur de Sciences Po, puisque oui. Sciences Po est toujours là, et d'ailleurs l'horrible Casanova est toujours en fonction, et qui disait, quand il a créé son école, eh bien, ce sera un rempart contre la démocratie. Voilà. Eh bien, voilà.
Ils ne savent pas, Sciences Po.
Le rempart contre la démocratie. Il faut quand même que les élites puissent fonctionner tranquilles et qu'elles ne soient pas emmerdées par ces milliards de populations qui n'ont qu'un intérêt, c'est de cracher au bassinet quand elles le peuvent, ou de crever quand elles ne le peuvent pas.
Voilà, Jacques.
Bon, eh ben écoute, je vais te laisser continuer et conclure.
on a un petit quart d'heure, et alors ce qu'on va passer de dire une chanson, alors je pensais, puisque il va y avoir encore des gens qui vont aller dans la rue, mais ils vont se mobiliser, pas pour des tâches, je pense, très nobles, en tout cas, tu sais, l'histoire du mariage continue. Et donc, on va
ça continue.
Dimanche, où on aura bras dessus, je pense, ils vont se marier, Madame Boutin et Madame Frigide Barjot. Cabu les a représentés bras dessus, peut-être qu'elles vont se déclarer leur amour à leur tour et renoncer à ce qu'elles disent et ne proposer de passer devant Monsieur le maire. En attendant, donc, toute cette joyeuse bande de fripouilles, parce que ce que ça représente aussi, ça, la bigoterie de la société française, quand on dit fille aînée de l'église, pour rien. Donc on aura, on propose l'amour anarchiste, un poème de Gaston Coutet, mis en musique par le petit crème, faire la transition.
D'accord. Eh bien, écoute, alors, à la semaine prochaine.
À bientôt. Salut.
Salut.
Ça était un tâcheron, n'ayant que ses bras pour fortune. La fille, celle du patron, un gros fermier de la commune. Il s'aimait tout de tant et plus. Écoutez ça, les bonnes gens, petits de cœur et gros d'argent, l'amour ça se fout des écus. Lorsqu'ils s'en revenaient du bal, par les minuits clairs d'assemblée, au risque d'un procès verbal, ils faisaient de larges roulées, au plein des blés profonds et droits. Écoutez ça, les bonnes gens, qu'un bicorne rendre le temps. L'amour, ça se fout de la loi. Un jour, s'en furent tous deux prier, elle, son père et lui, son maître, de les laisser se marier. Mais le vieux les envoya paître. Alors ils prirent l'accueil des champs. Écoutez ça, les bonnes gens, qui respectaient les cheveux blancs. L'amour, ça se fout des parents. Dans quelques cités, loin des labours et des jachères, passèrent ensemble un été. Puis tout d'un coup ils se fâchèrent et se quittèrent bêtement. Écoutez ça, les bonnes gens, mari est cocu et content. L'amour, ça se fout des amants.
Chronique Hebdo jusqu'à midi, donc quelques minutes encore, émission Chronique Hebdo. Et après, vous retrouverez à partir de midi de Rimes et de Notes, hein, donc l'émission sur la chanson non crétinisante. Et donc, en attendant, alors, quelques petits commentaires. Hein. J'avais voulu commenter le métro, mais je crois que le métro est parti. Je n'aurai pas le temps. Enfin, simplement, il y avait dans celui du jour, on rappelait quand même une troisième nuit d'émeute. Hein. On n'est pas habitué à Stockholm et dans sa banlieue. Et apparemment, dans ce quartier, comme on dit pudiquement défavorisé, de la capitale, un habitant de 69 ans a été abattu par la police. Alors voilà, les affrontements qui pourraient se poursuivre dans les jours qui viennent, à suivre un petit peu, parce que c'est pas ce que on parle pas trop souvent de ce qui se passe là dans les pays du Nord, hein, comme on dit, c'est formidable en Suède, vous savez, en Finlande, en Norvège, en tout cas pour la Suède, eh ben aussi ça craque. Alors voir dans quelles conditions. Et là aussi, je voulais vous dire avant. Bah, de bonnes nouvelles quand même, hein, avant de se quitter. La santé de monsieur Bouteflika, eh bien, il va mieux. Là aussi, au lieu de faire soigner là-bas en Algérie, il préfère venir à Paris au Val-de-Grâce, hein. Vous savez, le Val-de-Grâce, l'hôpital du Val-de-Grâce, qui ne soigne, hôpital militaire, hein, qui ne soigne que les riches et les puissants. Enfin, voilà. Ceux qui sont et les autres peuvent crever. Eh bien, en tout cas, on a eu des bonnes nouvelles ce matin. Hein, 76 ans, ça va mieux parce qu'ils n'avaient pas, communiqué depuis plusieurs semaines. Hein, alors, il y avait beaucoup d'inquiétudes et la dernière communication, il va bien, il va peut-être retourner là-bas en Algérie. C'était une bonne nouvelle, donc annoncée aussi ce matin dans ce fameux métro. Alors là aussi, je voulais vous dire les bonnes nouvelles. On avait dit dedans, pour faire rire un peu, que Madame Lagarde s'était pris les pieds dans le tapis. Hein, vous savez que Madame Lagarde, alors apparemment, si vous voulez avoir la suite, Monsieur Hollande la soutiendrait. Hein, c'est la moindre des choses. Après, le DSK, le Strauss-Kahn, au FMI, donc, c'est une spécialité française. Madame Lagarde, championne du FMI, donc, à son tour, en délicatesse, avec la justice bourgeoise de son pays, et donc, pour Monsieur Hollande, évidemment, une mise en examen pourrait atteindre le prestige de la France. Hein, vous rendez compte, hein, bon, voilà. Alors, ça, c'est une nouvelle aussi. On peut leur faire confiance, donc... En tout cas, la justice bourgeoise, vous l'avez vu récemment avec les résultats pour l'amiante, hein, circuler les victimes, aller respirer ailleurs, on se prépare pour le nucléaire, hein, pour les intoxications, les irradiations, tout ce qu'il y aura bientôt, puisqu'un accident majeur, c'est possible, et plus que possible en France, plus que jamais, hein, puisque c'est les champions du monde en nombre sur la surface de l'Hexagone, en nombre de réacteurs de centrales nucléaires. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est que Wörth, Eric, de son prénom, échappe de peu à la correctionnelle, hein, la révèle Le Monde aujourd'hui. La magistrate en charge du volet trafic d'influence de l'affaire Bettencourt au parquet de Bordeaux avait conclu à des réquisitions, comme on dit, de renvoi, hein, de Wörth et de monsieur Patrice Demestre devant le tribunal de correctionnel. Mais le procureur général, il est là pourquoi lui, hein, qui s'appelle André Ride, sans aucune ride, proche de l'UMP, tout près, aurait fait connaître son désaccord, ce qui aurait abouti à une réquisition de non-lieu. Circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien, Madame la Marquise. Alors voilà ce beau pays, donc, terminé quand même pour Monsieur Cahuzac, hein. Là aussi, il est passé les yeux dans les yeux, hein, vous le savez, vous pouvez les regarder, les contrôleurs et les flics, les yeux dans les yeux. Je vous dirais que, avait dit Monsieur Cahuzac, ben lui, il attend quand même un peu, puisque dans son village de Villeneuve-sur-Lot, eh bien, on dit, c'est possible quand même qu'en 2014, ils auront tout oublié. Ils revoteraient pour lui parce que c'était un bon maire. Et alors, là aussi, il est venu sur RTL, hein, la radio des cons, 12 millions d'auditeurs, où sévit Monsieur Apathy, qui avait dit, pour l'affaire, vous vous souvenez, avec Monsieur Plenel, Mediapart, ça va faire pchit. suite, comme avait dit l'autre, ça va se dégonfler, et donc il y aura pas de poursuite pour Cahuzac, patatrac, hein, puisque maintenant tous les fieffés coquins de la presse en sens Mediapart et Monsieur Plenel en disant qu'il est formidable. S'il n'y avait pas eu Mediapart et Monsieur Plenel, eh bien Monsieur Cahuzac serait toujours ministre. Et donc il vient sur RTL, hein, Monsieur Cahuzac, il se cache pas, hein, et dit j'ai été qualifié de répugnant. Comment qualifierait-on alors un violeur et un assassin type Marc Dutroux, hein, voilà un peu le ce qu'il dit sur la radio des cons. Hein, donc, comme on a passé tout à l'heure, faut plus de gouvernement, les sinistres, il est répugnant, mais il est répugnant par la fonction, hein, en tout cas par rapport à ce que l'on appelle, hein, pour tous ces sinistres, de la manière dont c'est fait. Alors évidemment, les trafics d'influence, les petits arrangements entre amis, tout le pognon mis de côté, hein, tout ce qu'on vous pique par rapport à toutes ces affaires. Alors Madame Lagarde et Monsieur Tapie, 400 millions d'euros. Monsieur Cahuzac, c'est vrai que c'est un petit bras, comme je l'ai dit tout à l'heure, autour de 700 000 euros. Mais enfin, bon, le fraudeur celui qui devait dépister les fraudeurs, et il l'avait bien choisi, moi il me semble qu'il aurait dû rester, il avait toute sa place dans ce gouvernement. C'est vrai qu'on l'a déjà dit, un gouvernement de gens honnêtes, c'est un oxymore, hein. Donc, on l'emploie souvent, ce mot-là, qui nous fait un petit peu rire, et c'est pas un euphémisme. Et donc, je terminerai sur ces bonnes nouvelles. Alors, en vous citant aussi, les dernières déclarations, là, c'était Madame Bateau, hein, et Monsieur, et le préfet à Nogent, donc c'était vendredi dernier, la centrale nucléaire Nogent-sur-Seine, sous la flotte, hein, qui monte, qui n'arrête pas. Aucun risque, les experts sont formels, pour la centrale de Nogent-sur-Seine. Alors donc, ils étaient plusieurs, il y avait le Manuel Valls, il y avait Madame Bateau, et il y avait donc Monsieur Barouin, hein, qui est, vous le savez, maire de Troyes. Alors sans ça, on aurait pu faire des petites blagues, dire Valls tragique, bientôt à Nogent-sur-Seine, Bateau dans l'aube, c'est le Titanic, hein, la Seine sort de son lit, le capitaine de pédalo rame à l'Elysée. Alors là, c'est pour rigoler un petit peu, et je terminerai avec une citation de Roland Topor, « Je respecte trop la démocratie » pour risquer de la dérégler en allant voter. Voilà, Chronique Hebdo, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, je vous souhaite une bonne semaine de résistance, hein, résister, hein, résistance de proximité, et même l'élargir au maximum. Donc, il n'y a plus que ça à faire, hein, dans ce pays, et faire des propositions. Évidemment, vous les proposez sur Anarchiste. Vous pouvez aller les voir, en prendre connaissance. Eh bien, à la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e, hein, la librairie du Monde Libertaire, là aussi. Donc allez voir à Publico, vous trouverez les bouquins, vous trouverez les revues, les CD, les DVD, tout ce que vous pourrez apprendre ou réapprendre ou revoir ou revisiter sur toutes les propositions anarchistes. Chronique Hebdo, c'est terminé. Salut, à la semaine prochaine.